Marie-Antoinette ou la Reine des Arts. Avril 1770, 9h30. Marie-Antoinette est prête, il faut partir. Elle a revêtu ses habits de voyage, embrassé une dernière fois ses parents, ses frères et sœurs, et ses seuls, accompagnée de ses dames de compagnie pour quelques jours encore, qu'elle monte dans son carrosse. À l'aube de ses 15 ans, son destin est à jamais bouleversé. Elle épouse dans quelques semaines le futur roi de France, le dauphin Louis, petit-fils de Louis XV. Les chevaux galopants traversent les sombres forêts qui entourent Vienne, s'éloignent peu à peu du palais de la Hofburg, où elle passa les hivers de son enfance. Si libre et chaleureuse, tendrement aimée et comprise par des parents unis. Si à Vienne, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche a veillé à lui donner une éducation à la française, c'est parce que son esprit éclairé pressentait l'importance d'une alliance de l'Autriche avec la France. Aussi, Marie-Antoinette est-elle instruite en langue française par son précepteur. La diction et le chant lui sont enseignés par deux comédiens français. Et son coiffeur, comme son dentiste et son maître de danse, sont aussi français. Quant au maître de clavecin et de chant des enfants impériaux, l'impératrice Marie-Thérèse avait choisi le chevalier et compositeur Christophe Willibald Gluck que Marie-Antoinette saura ne pas oublier. Le 16 mai 1770, dans la chapelle du château de Versailles, construite sous Louis XIV, les noces de Marie-Antoinette et du dauphin de France Louis sont enfin célébrées. Ils ont respectivement 14 et 15 ans. Durant 2 mois, de somptueuses fêtes sont données pour l'occasion dans les galeries et jardins du château de Versailles. La petite archiduchesse fait vite la conquête de toute la cour. On la dit délicieuse, avec une grâce et un port de tête inégalables. Marie-Antoinette a bien du mal à s'habituer à sa nouvelle vie. Son esprit se plie difficilement aux contraintes de la cour et à une surveillance continue. Bien qu'aimant, son jeune époux lui parle peu. Maladivement timide, il aime la solitude. Le 10 mai 1774, le roi Louis XV meurt. Marie-Antoinette est alors âgée de 18 ans. Elle devient reine de France. Le tout jeune couple royal cherche avant tout à se soustraire aux impératifs de la cour. Louis XVI s'adonne au plaisir de la chasse et Marie-Antoinette au plaisir des spectacles. Elle écrit en avril 1775 « J'ai établi chez moi un concert tous les lundis qui est charmant. Toute étiquette y est ôtée. J'y chante avec une société de dames choisies qui y chante aussi. Cette distance à l'égard de l'étiquette créée par Louis XIV lui vaudra de très vives critiques au sein même de la cour. À Versailles, Marie-Antoinette n'est pas heureuse. Alors, pour fuir cette cour et son esprit qu'elle ne comprend pas, elle se rend très souvent à Paris. Masquée pour ne pas être reconnue, elle s'enfuit vers les plaisirs de la capitale. En compagnie de quelques amis, dont les jeunes frères du roi, elle tente d'oublier. Ses visites à Paris, ses découvertes de spectacles, d'opéras, de comédies sont à l'origine de ses choix artistiques pour la cour. Ainsi vient-elle à organiser chaque semaine, de décembre à Pâques, la venue des troupes de la Comédie française, de la Comédie italienne et de l'opéra pour trois représentations. Tragédie le mardi, Comédie française le jeudi et opéra comique le vendredi. Marie-Antoinette nourrit pour l'opéra une grande passion. Ce fut en grande partie grâce à elle que des compositeurs purent être entendus à Paris, puis à la cour, comme Grétry, qui devint un ami très fidèle de la reine, ou Gluck, qu'elle prit sous sa protection. Vous souvenez-vous, le maître de musique de son enfance ? On raconte que sa carrière fut soudainement lancée par un geste spontané de la reine. Applaudir au XVIIIe siècle est interdit par le protocole. Elle le méprise et le brave. Marie-Antoinette applaudit en public son protégé. En deux jours, Gluck est une vedette. Son Orphée et Eurydice sera représenté 47 fois à Paris. Avec lui, l'opéra français reprend un nouveau souffle. Il renoue avec l'idée de la tragédie grecque, supprime le superflu pour valoriser le drame. Il s'agit avant tout d'une recherche de simplicité, de pureté vocale. Dans les milieux artistiques et intellectuels parisiens, la bataille des partisans et opposants à cette nouvelle vision de l'opéra devient politique. Et on en oublie la présence de Mozart qui, en 1778, repartira de son second séjour dans la plus grande indifférence. Tout Paris semble avoir oublié le jeune prodige qui jadis vint séduire la capitale. Quant à Marie-Antoinette, a-t-elle oublié son baiser donné au tout jeune musicien qui avait été si chaleureusement reçu au château de Schönbrunn. Marie-Antoinette n'a de cesse de vouloir s'échapper de la cour et de briser les conventions. C'est dans le cadre du Petit Trianon qu'elle trouve une certaine idée du bonheur. L'été 1774, Louis XVI lui en offre les clés. Construit à l'origine pour Madame de Pompadour, puis occupé par Louis XV et Madame du Barry, ce petit pavillon lui offre une atmosphère amicale et familiale. Le roi n'y dort jamais, mais il s'y rend plusieurs fois par jour. Loin des contraintes de l'étiquette, on y converse agréablement et surtout librement. On joue, on donne des petits concerts. Depuis le Petit Trianon, grâce à la tonnelle que Louis XVI fait construire, Marie-Antoinette peut rejoindre le petit théâtre de Mick sans que les rayons du soleil n'effleurent la blanche peau de son visage. La reine, accompagnée de ses beaux-frères et belles-sœurs et de quelques amis intimes, ceux que l'on nomme la troupe des seigneurs, aime jouer la comédie dans cette petite salle de spectacle. Et seuls les princes et princesses de la famille royale sont conviés à y assister. Tout au long de son règne, Marie-Antoinette va tenter de trouver réconfort et douceur dans la musique. Protéger les artistes, jouer leurs œuvres fut son combat, à elle. Et si elle n'a pas été la reine des Français que le peuple attendait, alors elle fut incontestablement la reine des arts.